tous les samedis à 13h20 sur France Inter.
France Inter.
La voix est libre.
Là-bas, si j'y suis, Daniel Mermet, un répondeur, c'est parti.
Ce n'est pas pour me vanter, disait jadis Philippe Meyer. Ce n'est pas pour me vanter donc, mais je lis Télérama. Jusque et y compris le courrier des lecteurs où, cette semaine, Olivier est remonté contre France Inter. Il s'agace de, je cite, « l'expression d'une pensée unique fortement politisée ». C'est vrai que Dominique Seux, tous les jours au petit-déj, et Nicolas Bétou, chaque lundi que Dieu fait, ça fatigue. Sauf que c'est là-bas si j'y suis qu'Olivier a dans le collimateur. Une émission qui ne laisse pas du tout la place au débat, dit-il. Bien qu'on ait des points communs, Télérama, Mermet, même Neuilly, où moi aussi je suis née, je ne partage pas ton point de vue, Olivier. Une émission qui passe mes messages ne peut être qu'excellente et de haute tenue. C'était Christine du Limousin.
L'Algérie n'aurait jamais dû être française. C'était une connerie d'un roi en 1830 et les années suivantes. Les armes n'ont rien réglé. Et c'est aujourd'hui une connerie encore de penser le contraire. Ça a coûté cher à beaucoup pour le profit de peu de personnes. Votre station, en reparlant de ces vilaines choses, risque simplement de remettre de l'huile sur le feu. Merci.
Bonjour, je vous remercie pour cette émission. Je suis encore émue et je confirme que certains pieds noirs, ceux qu'on appelait pieds noirs, ont vécu en Algérie après l'indépendance sans avoir été jamais menacés. Certains y vivent encore, entre autres le professeur Grangot, professeur de pédiatrie, voilà, qui exerce jusqu'à présent. Au revoir.
J'ai écouté l'émission d'aujourd'hui sur l'OAS. Je crois que le dernier intervenant qui parlait, il a dit les choses telles que moi je les aurais dites. Chaque personne qui met ses idées au bout de son fusil est un combattant. Bon, il faut respecter les uns et les autres. Mais, M. Mermet, j'ai du mal à vous suivre dans le sens où il y a des plaies qu'il ne faut jamais réouvrir. C'est trop frais, chacun a fait son travail à l'époque, l'OAS a fait son travail. N'oubliez pas qu'à cette époque, en 62, l'Algérie nous a renvoyé 1 million de personnes en 3 semaines. Je n'ai jamais vu une de ces personnes travailler de ses mains. Ils ont eu des situations protégées en France. Vous voyez que quand on commence à ouvrir les entrailles de l'histoire, ce n'est pas si simple. Alors il y a des sujets peut-être pour lesquels il faut avoir un peu plus de retenue et ne pas ouvrir tout de suite des plaies qui ont des difficultés à se refermer. Au revoir.
Je suis moi-même un pied noir d'Afrique du Nord, hein, d'Algérie notamment. J'ai quitté l'Algérie à 18 ans. Je pense avoir quelques notions sur mon pays. Je voudrais dire à ces gens là, qui sont intervenus hier, ces mecs de l'OAS, que l'Algérie n'était française que pour eux. Quand ils étaient là-bas, ils avaient tous les droits en tant que Français. Et les camarades algériens n'avaient pas de droits par rapport à eux. Et c'est ça qu'ils voulaient garder. Et si on a perdu l'Algérie, comme ils disent, c'est bien de leur faute. Et de leur faute à eux, qui ont toujours considéré les Algériens comme des moins que rien. Alors ces mecs-là, je leur dis, vous êtes des pauvres types. Allez, salut, Daniel.
Après tout, il aurait suffi de pas grand-chose pour que l'Algérie reste française. Il aurait suffi, par exemple, de donner aux Algériens une vraie carte d'électeur, une vraie carte d'identité française, avec tous les droits y afférents. Il aurait suffi que les terres cultivées par les colons leur profitent autant à eux qu'aux colons. Il aurait suffi que les écoles que nous construisions là-bas accueillent leurs enfants de la même façon qu'ils accueillaient les nôtres. Il aurait suffi que les hôpitaux que nous construisions là-bas accueillent les Algériens de la même façon qu'ils accueillaient les pieds noirs. Bref, il aurait suffi que cette colonisation profite autant à ceux qui étaient là qu'à ceux qui arrivaient. Mais malheureusement, on est arrivé, on a tué, on a pillé, et forcément, ça n'a pas duré.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Non, rien de rien, non. Les anciens de l'OAS ne regrettent rien. Et même au contraire, 50 ans après, ils parlent de leur guerre, ils parlent de leurs exploits et de leur combat pour l'Algérie française. Un combat désespéré, une sorte de baroud d'honneur ou de baroud d'horreur. 13 000 attentats entre le printemps 61 et l'été 62, c'est-à-dire en un an et demi, 13 000 attentats, 2 200 victimes, des milliers de blessés en Algérie, mais aussi ici en métropole. Et eux, de leur côté, une centaine de morts, dont 4 fusillés qui sont leurs martyrs qu'ils vénèrent toujours aujourd'hui. 10 000 sont passés par la case prison, 3 682 ont été condamnés et tous ont été amnistiés au cours des années 60 et amnistiés définitivement en 1968 par le général de Gaulle, la Grande Zora, comme il l'appelait, et qu'il continue, vous allez l'entendre, à haïr de tout leur cœur. Aujourd'hui, peu à peu, leur rang s'éclaircissent. Il y a ceux qui se taisent, il y a ceux qui se sont fait oublier, mais il y a ceux qui sont toujours présents et bien présents et qui sont actifs dans des associations, avec des publications, des commémorations, surtout dans le sud de la France, à Marignane, à Perpignan, à Théoul-sur-Mer, où nous allons nous balader avec eux, où ils ont réussi à ériger des stèles. Et à chaque fois, ça entraîne des controverses, des castagnes. On pourrait prendre ça pour des combats d'arrière-garde, de papilles, voilà. Sauf qu'il ne faut pas du tout, ignorer leur influence, la référence qu'ils constituent, une source d'inspiration pour l'extrême droite française. Non, les anciens de l'OAS ne regrettent rien. C'est notre sujet du jour, deuxième volet donc aujourd'hui du reportage de Charlotte Perry. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour, il y a 3 chaînes publiques de la télévision grecque qui sont fermées. En Turquie, il y a 6 chaînes publiques dotées d'énormes moyens qui continuent toujours à émettre, mais personne ne les regarde, pratiquement personne. Une centaine de chaînes privées nous informent en permanence sur la révolution qui continue depuis 15 jours sur l'ensemble de la Turquie, contrairement à ce qu'on fait croire ici. Le pays entier est debout, ça continue en permanence. Et ça va s'approfondir de plus. Au revoir.
Salut Daniel et toute l'équipe. Le café repère d'Aner dans les Hautes-Pyrénées invite tous les AMG des environs à notre rendez-vous qui sera exceptionnel ce mois-ci puisque ce sera autour d'une pièce de théâtre, D'un retournement l'autre, où la crise financière vue par Frédéric Lordon est mise en alexandrin par les ateliers de l'Utopie. Alors venez nombreux, l'accueil se fera à 20h au Café du Village avec un repas et la représentation débutera vers 21h. À bientôt.
Je vous ai compris.
Le général de Gaulle. Alger, le 4 juin 1958.
Je sais ce qui s'est passé ici.
La démocratie, la République, je préfère la royauté. Au moins, quand il y a un roi, la France n'est pas divisée en partis dont le seul but est l'article numéro 1 est de prendre le pouvoir.
Mais vous, personnellement, vous avez été conseiller municipal ici ailleurs, oui. Au Front National.
Oui. Le Front National avait en son sein accueilli les anciens de l'Algérie française. J'en suis parti, j'y ai toujours des amis, je ne regrette pas ce que j'ai fait, mais nous sommes apolitiques. On appellera à voter contre les ennemis de l'Algérie française, au cas par cas.
L'Oranie entière vient elle aussi entendre la réponse que de Gaulle apporte en écho à son appel angoissé. Oui, 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 la France est ici, elle est ici pour toujours.
6 juin 1958.
Il faut qu'il n'y ait en Algérie rien autre chose, mais c'est beaucoup, rien autre chose que 10 millions de Françaises et de Français avec les mêmes droits, et les mêmes devoirs. Vive l'Ostaganem! Vive l'Algérie française!
on était tous des gaullistes. On a fait venir De Gaulle pour qu'il nous sauve, et puis De Gaulle, il nous a menti, De Gaulle, il nous a trahi. Il nous a trahi.
Quand vous avez 19 ans, et qu'un homme, un grand homme d'État vous dit l'Algérie, c'est la France, l'Algérie restera française, le drapeau FLN ne flottera jamais sur Alger, vous vous rendez compte, à 19 ans, tous ces jeunes, on est fous de ça. Et puis d'un seul coup, un an après, il tourne de la veste. Alors là, non, moi non plus, là, je comprends pas. Alors je me révolte contre lui. En fin de compte, je me suis plus battu contre De Gaulle que contre le FLN. L'Algérie française. Nous voulions que l'Algérie reste française. Un point. Barre. C'est tout.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Charlotte Perry. Non, non, rien de rien. Les anciens de l'Ouest ne regrettent rien.
Flight number 2, arriving from New York.
Jean-Yves Casalonga. Monsieur, après ça, je vous présenterai mon monsieur. Alors ça, c'est notre président.
Bonjour monsieur.
Monsieur Anglade, enchanté. Monsieur Valls.
Monsieur Valls, enchanté.
Bonjour.
Monsieur Ximénez, vice-président de la Maison du Pied Noir et vice-président de l'ADEP.
Asseyez-vous.
Alors voilà, ici vous êtes dans la Maison des Pieds Noirs.
Et de leurs amis.
C'est une maison qui accueille tous ceux qui ont conservé dans leur cœur et dans leur âme une part du pays d'où ils ont été chassés.
Alors on est avec ces anciens de l'OAS et on va évoquer évidemment la décolonisation de l'Algérie. Mais à chaque fois qu'on évoque la décolonisation de l'Algérie, il faut évoquer la colonisation de l'Algérie, sinon on ne comprend rien du tout. Et il faut évoquer ces 132 années de colonisation entre 1830 et 1962, au cours desquelles années, 132 années, les Algériens, ceux qui allaient devenir les Algériens, ont résisté, se sont battus contre l'occupation française, contre la colonisation. La conquête, la fameuse conquête, n'a pas été une soirée de gala. En 1837, Alexis de Tocqueville, qui n'était pas un gauchiste, en revenant d'Algérie, écrivait: nous faisons la guerre de façon beaucoup plus barbare que les Arabes. C'est de leur côté à présent que se situe la civilisation. Selon les historiens et les chercheurs aujourd'hui, la colonisation de l'Algérie se serait traduite par l'extermination du tiers de la population, déportations, massacres, épidémies, famines, des centaines de milliers de morts. Le général Bugeaud, le fameux général Bugeaud, le gouverneur qui a appliqué la politique de la terre brûlée, on va en parler aujourd'hui, se vantait, lui, à son époque, disant « Nous tirons peu de coups de fusil, nous brûlons tous les villages, toutes les cahutes, l'ennemi fuit partout en emmenant ses troupeaux. » Alors il y a ça, puis il y a aussi la justification idéologique. Celle, par exemple, de Jules Ferry, le grand, le bon Jules Ferry, qui proclamait « Il faut dire en effet ouvertement que les races supérieures ont un droit sur les races inférieures, un droit et un devoir, le devoir de civiliser les races inférieures ». Voilà des idées qui ont fait leur chemin pour aboutir dans l'esprit, et vous allez l'entendre, dans les verbes, les paroles de ces anciens d'Algérie. Alors, maintenant la décolonisation. 1954, 1962, 8 ans de guerre. Mais il faut revenir un petit peu en arrière. 1945, avec les massacres de Sétif et de Guelma. Massacre de milliers d'Algériens par des colons. 54-62, Benjamin Stora dira « C'est une guerre sale et impopulaire ». Sauf pour les Français d'Algérie, ces pieds noirs, qui en majorité veulent conserver l'Algérie française. La grande date, évidemment, c'est le 13 mai 1958, avec le fameux discours du général de Gaulle, « Je vous ai compris », et pour les colons, les Français d'Algérie, pour les pieds noirs, de Gaulle, par ces mots, se prononce pour l'Algérie française. D'ailleurs, il prononcera l'expression « l'Algérie française ». Mais c'est un malentendu. De Gaulle va mener une politique qui aboutira à négocier avec le FLN et qui aboutira à l'indépendance au printemps 1962. Ce revirement, ce malentendu, cette ambiguïté du gouvernement français a suscité la révolte, la colère, la rage d'une partie des pieds noirs d'Algérie qui, avec des mouvements divers et variés, ont fini par constituer cette OAS, cette organisation de l'armée secrète. Et nous sommes avec quelques-uns des survivants de cette aventure.
C'est nous les Français d'Algérie, c'est nous les pieds noirs et hardis, qui attendons reconnaissance pour ce qu'on a fait pour la France. C'est nous les Français d'Algérie, c'est nous les pieds noirs et hardis. On est parti, on a tout quitté, la France nous a laissé tomber.
Donc ici, on se trouve à la maison du Pied Noir de Cagnes-sur-Mer. Vous, monsieur Anglade, vous en êtes le président, c'est bien ça?
Je suis président de la maison du Pied Noir et exactement le président aussi de l'ADEP, l'Association de défense des intérêts des exilés et détenus politiques de l'Algérie française.
Exilés et détenus politiques de l'Algérie française, c'est-à-dire
les anciens de l'OAS.
Quand est-ce que vous êtes rentré dans l'OAS?
Nous sommes rentrés tous à peu près dans la même. Il faut vous dire que l'OAS n'a pas été créé comme ça. C'est une succession d'événements qui ont fait que l'OAS s'est monté, parce qu'avant qu'il y ait l'OAS, il y a eu des associations qui se sont montées de défense des Français d'Algérie pour essayer de garder l'Algérie à la France, qui était, je vous signale au passage, que l'Algérie était département français. Hein, c'était pas n'importe quoi, c'était donc la France. Nous avons essayé de la défendre, et avant qu'il y ait tout ça, le trois quarts de nous qui sommes ici, avant d'être dans l'OAS et d'être dans les associations pour défendre l'Algérie, nous avons défendu l'Algérie française dans l'armée. Nous avons tous été appelés dans l'armée, principalement dans les groupes parachutistes, tout le monde est là, autour, et nous avons défendu l'Algérie française dans le sens logique du terme, puisque depuis 1954 à 1962, l'armée française défendait l'Algérie française. Quand on est sorti, fatalité, avec les événements qui se passaient, on a essayé de rejoindre des associations d'Algérie française qui se montaient. Et au fur et à mesure que l'on montait une association, elle était automatiquement interdite, ce qui s'est passé pour le FAF, le Front d'Algérie française, le FNF, le Front national français aussi, qui défendait les idées de l'Algérie française. Nous avons continué à militer dans ce qui existait comme défense de l'Algérie française, et puis nous sommes arrivés au moment où du 13 mai 58. Alors il faut vous dire qu'autant que nous sommes ici aujourd'hui anti-gaullistes, nous avons été super gaullistes parce que c'est nous qui l'avons mis au pouvoir. Hein, le 13 mai 58, c'est la Gaillarde et nous qui avons pris le gouvernement général pour remettre les clés de la ville d'Alger, donc de la nation, à M. Charles de Gaulle. Alors il ne peut pas exister plus gaulliste que nous. Malheureusement, ce monsieur que nous avons mis au pouvoir, en qui nous croyons, nous a trahis. Et c'est pour ça que nous sommes devenus anti-gaullistes à bloc et que nous avons suivi une partie de l'armée qui s'est rebellée. Et ce qui devait arriver est arrivé. Est arrivé donc ce qu'on appelait le putsch, qui s'est passé le 22 avril 61, qui s'est terminé le 26 avril. Et à partir de là, disons que les généraux ont pris le maquis. Et à partir du maquis, ils ont monté des opérations pour essayer de garder l'Algérie française.
Michel Debré, 22 avril 1961.
Nous avons tous participé au putsch. Je tiens à vous dire que parmi nous, il y a des gens qui étaient internés dans les camps de concentration en Algérie et qui sont sortis grâce au putsch, c'est-à-dire on a libéré tout le monde, et qui ont rejoint donc le rang de ce qui a commencé à être l'OAS. Voilà comment s'est monté, si vous voulez, l'OAS, au début 61. Et c'est à ce moment-là que donc le lieutenant de Gueld a été chargé d'une mission, c'est-à-dire de s'occuper des commandos qui pouvaient contrecarrer le FLN.
C'était les commandos Delta, c'est ça?
Et ça s'appelait les Delta.
Donc en d'autres termes, les commandos Delta, c'était le bras armé de l'OAS.
C'était le bras armé, oui, on ne peut pas dire autrement, mais ce n'était pas quelque chose de dégradant. Et si nous avons été amenés à faire des choses de temps en temps qui ont dépassé peut-être nos idées, eh bien c'était contraint et forcé pour surtout contrecarrer le FLN, qui n'a pas hésité à tuer les gens depuis 54 jusqu'à après 62, comme tout le monde le sait.
Chanson de Los Hierros, enregistrée depuis la prison de Fresnes, rendant hommage au commandant Roger de Gueld, fondateur des commandos Delta.
Il est mort sans une fleur. Il est mort sans un pleur. Il est mort sans avoir peur. Il est mort, la rage au cœur. Fier, un Delta n'a pas le droit d'aimer. Pour un Delta, le maquis est son foyer. Et quand un matin, une salve l'a couché, pour nous, c'est au champ d'honneur qu'il est tombé. Pour nous, c'est au champ d'honneur qu'il est tombé.
Et vous, votre famille était d'Algérie, vous êtes né en Algérie.
Mes parents sont installés en Algérie, on était depuis 3 générations ou 4 générations, mais nous étions tous des ouvriers. Mes parents avaient un petit commerce, une épicerie comme il y avait dans le temps, où on servait encore le lait à la casserole. Je ne sais pas si vous avez connu ça, puisque maintenant c'est tout en bouteille. Eh bien, il fallait se lever de bonne heure le matin, se coucher tard, pour ne pas gagner grand-chose. Voilà, c'est pour vous dire que les colonialistes, il y en a, à notre connaissance, on n'en a pas eu. Et je tiens à vous préciser que nous vivions tous dans un quartier très spécial qui s'appelait Bab El Oued, où il y avait quand même 100 000 personnes qui n'ont jamais été racistes, puisque nous étions en commun avec toutes les races, les Israélites ou les Arabes, les musulmans. Et qu'il n'y a que cette histoire, à partir de 1954, où l'islamisme est venu au milieu, qu'il y a eu pratiquement une coupure entre les communautés. Mais de tout temps, on a toujours vécu dans une bonne harmonie.
Tous ici, vous êtes de Bab El Oued.
Moi, je suis de Bab El Oued aussi.
Vous vous appelez comment ?
Michel Ximénez. Nos parents se sont battus 14, 18, 39, 45. En 39, 45, ils ont libéré la France. Les pieds noirs et les arabes et les juifs. L'armée d'Afrique est partie d'Algérie, elle a fait la Tunisie, elle a fait l'Italie, elle est revenue, elle a fait le débarquement de Provence, elle a libéré l'Alsace, elle a libéré et elle est rentrée en Allemagne. Ça, on n'en parle jamais. Et ça me toujours resté au fond de ma gorge. Et donc, j'ai voulu, quand je me suis engagé dans l'OAS, je croyais que l'Algérie était française. J'ai toujours cru que l'Algérie était française. On ne parlait pas une langue étrangère, on était des pauvres. Je vous dis, mon père, il était croque-mort. Et donc, il fallait, pour en ramener l'argent à la maison, il en fallait. Et moi, je crevais de faim. Et quand je me promenais dans la rue, quelquefois, j'avais des trous à mes chaussures et je mettais des semelles en carton. Voilà les pieds noirs, voilà ce que c'est les colonialistes dont on nous parle tant. Et tous les copains qui sont ici, c'est à peu près pareil. Nous étions des anciens communistes, il ne faut pas l'oublier qu'en Algérie, nous étions à 80% de communistes. Et à un moment, nous avons tous basculé vers l'Algérie française. Nous avons tous basculé. Et tous ceux qui n'étaient pas Algérie française, il pouvait y avoir des gens qui n'étaient pas Algérie française. Cela, il n'y avait rien. Mais c'est ceux, les militants communistes qui fabriquaient les bombes, qui mettaient les bombes dans les réverbères. Et ces gens-là, ils étaient des communistes. Ce sont les premiers terroristes. C'était des communistes, des pieds noirs. Donc ceux-là, il fallait les éliminer aussi.
C'est ce que vous avez fait.
Et j'ai éliminé, voilà, c'est tout. C'était notre rôle. Mais toujours dans l'objectif, l'Algérie française. L'Algérie française. Nous voulions que l'Algérie reste française. Un point, barre, c'est tout. C'est la guerre, c'est la guerre. Les bavures, c'est les journalistes qui trouvaient des bavures. C'est les intellectuels de gauche qui vous trouvaient toujours des bavures. Nous, c'est pas des bavures, nous, c'était un combat.
Vous vous souvenez de combien de personnes vous avez éliminées ?
Ah non, combien de personnes, je compte pas, j'ai pas de carnet là. J'ai laissé mon carnet à la maison, je vous le rapporterai pour savoir le nombre de gens.
L'OAS frappe où elle veut, quand elle veut. Ça, c'était inscrit sur les murs, en Algérie, bien sûr, à Alger, à Oran, partout, et même à Paris. OAS veille, ça, c'est ce qu'on pouvait lire sur les corps de certaines victimes de l'OAS. Les plus fameux commandos, c'était les commandos Delta, qui ont été fondés par un jeune militaire déserteur, Roger de Gueldre. Les commandos Delta sont responsables de centaines d'attentats à l'explosif, d'assassinats de personnes considérées comme traîtres. Selon les décomptes de la Sûreté nationale en avril 1962, en un peu plus d'un an, l'OAS avait déjà tué 1622 personnes, dont 1383 musulmans et 239 Européens, en faisant au total plus de 5000 blessés.
À partir d'aujourd'hui, je prendrai,
le général de Gaulle,
au besoin directement, les mesures qui me paraîtront exigées par les circonstances.
23 avril 1961.
Par là même, je m'affirme en la légitimité française et républicaine qui m'a été conférée par la nation, que je maintiendrai, quoi qu'il arrive, jusqu'au terme de mon mandat, ou jusqu'à ce que viennent à me manquer soit les forces, soit la vie, et que je prendrai les moyens de faire en sorte qu'elle demeure, après moi, française, français, aidez-moi.
Tout à l'heure, vous me parliez de Roger de Gueldre,
oui,
qui était votre chef.
Oui.
Vous avez tenté de le libérer aussi quand il a été arrêté en avril 62.
Oui. Il y a eu un commando qui est monté à Paris pour essayer de le faire évader, mais comme il était quasiment impossible de le faire évader parce qu'on avait pris des précautions à l'intérieur de la prison qui étaient vraiment exceptionnelles, on n'a jamais vu un homme aussi gardé que lui. Donc on ne pouvait même pas l'approcher ni de près ni de loin. Donc il n'était plus question de pouvoir le libérer. Et en demandant à l'état-major algérois ce qu'il fallait faire, l'état-major algérois a décidé de passer l'unité supérieure et nous a dit, essayez de jouer sur le général de Gaulle, il faut essayer d'abattre le général de Gaulle de façon à ce que l'Algérie ne soit pas perdue au 1er juillet comme c'était prévu. C'est ce que nous avons essayé de faire, un attentat sur le général de Gaulle, mais par malchance, pour beaucoup d'inconvénients, parce que c'était pas facile. En France, on n'était pas comme en Algérie, on connaissait pas si bien le territoire. On a été arrêté juste avant. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait 6 ans de prison, parce que j'ai été inculpé de tentative d'assassinat sur la personne du général de Gaulle. Et la seule chose que je regrette, c'est que ce ne soit pas passé et qu'on n'ait pas tué avant la fin de l'Algérie française. Voilà. C'était au mois de mai 62. Depuis le peintre russe, son appartement qui était en face de l'Elysée, on devait tirer au fusil à lunettes et au bazooka sur le général de Gaulle qui recevait très souvent ses invités devant le perron. Comme vous voyez à la télévision tous les jours, M. Hollande et M. Sarkozy et toute cette bande de guignols qui sont depuis des années.
Vous êtes allé jusqu'à quel point en fait?
Madame, ça c'est des choses qui nous regardent, mais nous avions bien avancé les choses. Malheureusement, on a été arrêté juste avant. C'est là où j'ai été condamné à 15 ans de détention criminelle et j'en ai fait que 6, j'ai été amnistié. Et le malheur pour nous tous, c'est que nous constatons qu'aujourd'hui,
On se trouve ici dans un pays où on n'est plus chez nous. Tout le monde le sait, c'est pas une invention. Et on se demande si c'est possible. J'ai bien un ami qui un jour, tu te rappelles comment s'appelait Casse-Ficel, comment s'appelait-il ?
Loufrani,
qui était journaliste à l'époque et qui avait dit dans le journal tout au début, eh bien, effectivement, les Arabes nous aiment tellement les pieds noirs qu'ils nous suivent.
Ici, la voix de l'Algérie française.
Émission clandestine de la radio de l'OAS, 14 janvier 1962.
Pour parer à toute manœuvre dilatoire, le haut commandement de l'armée secrète décide d'accélérer et d'amplifier la politique de terre brûlée dont les premières manifestations n'ont été jusqu'ici que de simples avertissements. Dorénavant, les destructions opérées sur l'ensemble du territoire algérien auront un tout autre caractère. Elles commenceront à partir du 15 juin, 0h. D'autre part, l'OAS, qui jusqu'alors avait demandé à la population masculine de rester sur place, lève aujourd'hui cette interdiction et l'engage à partir dans l'ordre et la discipline. Puissent ces mesures faire réfléchir ceux qui devront bien nous entendre et nous comprendre s'ils désirent vraiment que la communauté européenne reste en Algérie et que notre pays si cher, échappe au chaos.
Mais vous, aujourd'hui, vous êtes adjoint au maire à Cagnes, en charge des rapatriés. C'est une mairie UMP, c'est un parti gaulliste. L'UMP est un parti gaulliste.
Quand M. Nègre, qui est sénateur maintenant, et qui est maire depuis 1995, quand il s'est présenté aux élections, il était apolitique. Il n'avait pas d'étiquette politique. C'est là que je suis rentré avec lui. Et quand il a pris son étiquette politique, je suis toujours resté la société civile. C'est-à-dire que je ne fais partie d'aucun parti. La seule condition... Je me suis représenté avec lui pendant 3 fois. Mais je suis toujours apolitique.
Pourquoi vous n'êtes pas exilé comme beaucoup d'autres pour éviter justement la prison ?
Exilé où ?
En Espagne, en Argentine, en Italie.
Et je ne vois pas pourquoi on aurait dû s'exiler, pourquoi on devait s'exiler, de quoi faire. D'ailleurs, quel pouvoir de s'exiler avions-nous ? Moi, je suis sorti, j'ai touché 30 francs de la France en sortant de prison de l'île de Ré. Et j'allais où à l'étranger ? Avec quoi ? Quoi faire ? Avec quoi ? Et j'ai cherché un emploi à Marseille, parce que ma famille était à Marseille, et j'ai recommencé à travailler, c'est tout. Vous me parlez d'exil, l'exil de quoi ? Pourquoi c'est nous qui devions nous exiler ?
Non, mais c'est ce que beaucoup ont fait.
On ne dit pas aux Arabes aujourd'hui qui ne s'exilent pas ailleurs que la France. Pourquoi ils ne vont pas en Espagne ou ils ne vont pas en Argentine ? Enfin.
Je vous demande ça parce que beaucoup, beaucoup l'ont fait.
Les pieds noirs qui sont partis là-bas, c'est parce qu'ils avaient un mandat d'arrêt. Et s'ils étaient restés en France, ils auraient été en prison. Donc ils sont partis en Espagne ou en Italie. Ils ont attendu l'amnistie en 66 ou en 68 pour rentrer en France. Moi, j'ai fait l'erreur de partir en Espagne. Et je suis rentré avant l'amnistie et j'ai été arrêté en France. Donc les 3/4 des gens qui étaient là, exilés là-bas, comme vous dites, c'est parce qu'ils avaient un mandat d'arrêt, qu'ils étaient recherchés.
C'est plus mon cas. Puisque je résidais les dernières années en Italie.
Vous êtes Monsieur Casalonga.
Bon, j'ai vécu un peu partout en Europe, parce que j'ai pu partir d'Algérie.
Vous avez quitté quand, vous, l'Algérie ?
J'ai quitté quand les bacs à essence d'Oran brûlaient, en clandestinement, à bord d'une voiture, une 403, c'était une 403, qui appartenait à un conseiller général. Il y avait un macaron bleu, blanc, rouge, et il y avait, à l'entrée du port d'Oran, un policier qui a levé la main pour arrêter la voiture. Dans la voiture, nous étions 5. Je dis, bon, mais finalement, j'ai montré le macaron bleu, blanc, rouge. Et le policier, dans son geste d'arrêter la voiture, il levait son bras à saluer. Nous avons pu rentrer clandestinement dans le port d'Oran.
Le port d'Oran qui était en feu ?
À côté, les bacs à essence. Nous sommes allés en Espagne. Et en Espagne, on a été... isolé par Franco. On a quitté l'Espagne. Je suis allé en Suisse. J'ai été arrêté en Suisse. Après ça, je suis allé en Italie. En Italie, j'ai rencontré le colonel Argo. qui m'a dit d'aller en Belgique. En Belgique, on a été embêté. Je suis retourné en Italie. Voilà. J'ai travaillé sous un faux nom de Bernard Jamy comme journaliste.
Si vous rentiez en France, c'était...
J'avais 20 ans de réclusion criminelle à faire.
20 ans ?
20 ans.
Les faits, c'était quoi ?
Écoutez, ça m'est personnel, ça.
Ça, vous voulez pas en parler ?
C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire.
Mais pourtant, vous regrettez pas ?
Non, du tout. Du tout, au contraire. Au contraire, mais je vais pas me glorifier ou... La guerre civile, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on sait pourquoi on tue, mais c'est quand même malheureux. Relisez Monterland sur la guerre civile, il aura tout dit.
Tu avais juste 18 ans, quand on t'a mis un béret rouge, quand on t'a dit rentre dedans tout ce qui bouge. C'est pas exprès que t'étais fasciste, parachutiste. Alors de combat en combat, c'est former ton intelligence. Tu sais qu'il n'y a ici-bas que deux engeances, les gens bien et les terroristes, parachutistes. Puis on t'a donné des galons, héros de toutes les défaites, pour toutes les bonnes actions que tu as faites. Torturais en spécialiste, parachutiste. Alors sont venus les honneurs, les décorations, les médailles, pour chaque balle au fond d'un cœur, pour chaque entaille, pour chaque croix noire sur ta liste, parachutiste. T'as rien perdu de ton talent, tu rates pas une embuscade. Mais comme on tire plus vraiment, tu trouves ça fade. C'est peut-être pour ça que t'as les yeux tristes, parachutiste. Mais si t'es vraiment trop gêné d'être payé à ne rien faire, tu peux toujours te recycler chez tes petits frères. Je crois qu'on engage dans la police, parachutiste.
Bonjour.
Bonjour.
Marcel.
Bonjour.
Tu vas bien ?
Salut.
Tu vas bien ?
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Vous connaissez l'endroit ?
Non.
Vous allez voir, c'est magnifique.
Ça va, j'arrive.
Bonjour.
Je vais me mettre mon béret. En général, je porte mon béret. Je suis parachutiste. Je suis au 1er RPMA, 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine à la citadelle à Bayonne.
Vous vous appelez comment ?
Je m'appelle Bernard Salquin. J'ai opté pour l'Algérie française. Je suis rentré dans l'armée secrète.
Là, vous avez mis, donc c'est le béret des parachutistes ?
Oui, tout à fait, c'est mon béret. D'origine PMPRA, il est tout mité, mais c'est celui que je portais dans la PMPRA et avant, à 18 ans. J'en ai 71.
Et il est rouge alors, celui-là ?
Il est amarante. La coloniale n'a pas le béret rouge, elle porte un béret amarante, alors que les métropolitains portent un béret rouge. Ça n'a rien à voir. Attendez.
Ça, c'est la gerbe de fleurs que vous avez amenée. C'est une énorme gerbe avec des roses.
Oui, oh, ben, elle est bleu-blanc-rouge.
Elle est bleu-blanc-rouge. Cercle Jean-Bastien Thierry.
Voilà. Bon, tu prends la gerbe ? Sur la porte. Attention.
Ici, la voix de la vie française. L'aumônier général de l'OAS vous parle. Sommes-nous donc tombés si bas qu'il faille emprunter aujourd'hui les ondes d'une radio clandestine pour rappeler à certains une des exigences les plus fondamentales qui découle du décalogue, de ce décalogue entériné par le Christ lui-même. Cette exigence, eh bien oui, il faut le dire et le redire et le crier bien haut, c'est l'amour de la patrie. On doit aimer sa patrie, comme on doit aimer sa famille. C'est tout ça. Et c'est loi divine parce que loi naturelle. Le Christ a aimé incontestablement sa petite patrie, ce qui ne l'a d'ailleurs nullement empêché d'aimer et vouloir sauver tous les humains. Plus tard, chez nous, Jeanne d'Arc a quitté sa ferme et son hameau pour s'en aller bouter l'adversaire hors de France. Et après elle, combien de patriotes ont suivi jusqu'à nos jours son héroïque exemple. S'il existe une légitime défense pour un père de famille qui protège sa femme et ses enfants contre un éventuel agresseur, on ne saurait nier qu'il en existe une pour les hommes qui défendent une parcelle de la patrie et à qui on ne reconnaît plus d'autre droit maintenant que celui de se faire tuer sans rien dire.
Moi, je suis Jean Catanova. Je suis un ancien d'Aulès constantinois. J'étais sous les ordres du colonel Château-Jaubert, qui lui était un grand résistant et compagnon de la libération. Donc j'ai rejoint cette résistance au même titre que j'aurais rejoint celle de 40. Nous, on a toujours été sous les ordres d'officiers de l'armée. À Constantine, ce qui me commandait, c'était un colonel et un lieutenant.
Qui avait déserté, hein.
Qui avait déserté. Et les deux ont été condamnés à mort.
Vous étiez né en Algérie ou pas du tout?
Alors moi, je suis pied noir d'Alger, oui. Jusqu'à l'âge de 17 ans, parce que quand la guerre a éclaté, j'avais 17 ans. Alors moi, je vais vous faire un aveu. C'est que s'il n'y avait pas eu la guerre, bon, moi, je suis issu d'une famille très croyante. S'il n'y avait pas eu cette guerre, en ce moment, je porterais peut-être la soutane. Tout le monde me voyait rentrer dans les ordres. Et avec la guerre, j'ai fait ce que beaucoup de jeunes ont fait en 39, c'est-à-dire qu'ils ont pris les armes pour défendre la France. Et ce qui nous a fait prendre les armes, c'est la trahison de De Gaulle. Il a juré, il a donné sa parole d'honneur, qu'il ne nous abandonnerait pas. Alors il a mis bien en confiance pour mieux nous trahir. Pour nous, ça restera un montre. De Gaulle, pour nous, c'est un imposteur. Alors, j'ai aucune gêne, j'éprouve même de la fierté à avoir combattu pour que la France vive en Algérie. Mais vous savez, j'ai 76 ans et ça nous fait mal encore. Beaucoup ont sacrifié leur carrière, principalement les officiers qui ont déserté. Donc il y a eu 44 condamnations à mort et 4 exécutés. Les exécutions ont été prononcées par des tribunaux d'exception, donc illégaux. Alors ça s'appelle de l'assassinat. L'assassinat d'État.
Mais l'OAS aussi a fait beaucoup d'assassinats.
Oui, des traîtres. Mais comme la résistance de 40. Vous savez que les résistants de 40 ont été amenés à torturer des collabos et les supprimer. Quand on est en guerre, on est obligé de tuer des ennemis et c'est contraire à notre religion. Bon, il m'a fallu des années pour retourner dans une église. Des années. Un ennemi ou pas un ennemi, nous sommes tous des enfants de Dieu. Donc, non, il me semblait qu'en ayant fait la guerre, ça me gênait de rentrer dans une église.
Vous après, alors, vous avez fait quoi dans la vie?
Après, après, je suis rentré dans la police. J'étais fonctionnaire de police à Paris et à Marseille. Comme je n'ai pas été arrêté, je pouvais rentrer dans la police. Et j'ai fait une carrière dans la police, une carrière très honorable, puisque il m'a été remis la médaille d'honneur de la police. Et on vient maintenant de me remettre la médaille militaire. Je pense que le Seigneur m'a pardonné, oui. Et en tant que chrétien, vous savez, je n'ai absolument aucun remords. Je vais à la messe fréquemment, je retourne à mes premiers amours. Et s'il vous plaît, avant qu'on rejoigne notre Seigneur, rendez-nous justice. C'est l'honneur de la France qui est en jeu là.
Les gens commencent à arriver. Et alors là, Monsieur Collin, devant la statue de Notre-Dame d'Afrique, vous avez déposé des drapeaux français.
Des bannières, des drapeaux, des anciens combattants, patriotes, vont déposer des gerbes devant le mémorial des morts qui est là-bas, des morts de l'organisation armée secrète.
Il y a une bannière avec écrit les anciens détenus et exilés politiques de l'Algérie française.
C'est la DIMAD, ça. C'est la DIMAD. C'est notre association.
Vous vous mettez comme ça ici, là, comme ça. Rapprochez-vous, les amis, là, comme ça.
Là, ici, en travers, oui. Voilà.
Il y a trois personnes à droite, trois personnes à gauche.
Claudius.
Bonjour, monsieur. Je vois que vous êtes très, très décoré.
Oh, très décoré, vous savez. On est nombreux à avoir eu la médaille militaire et la croix de la valeur militaire. Vous connaissez les décorations, non ?
Pas très bien, non.
Ça, c'est la médaille militaire.
C'est valeur,
la plus haute distinction après la Légion d'honneur. Ça, c'est la croix de la valeur militaire. Autrement dit, c'est la croix de guerre d'Afrique du Nord. Comme on n'était pas en guerre, on a inventé une décoration avec des citations comme la croix de guerre. Ça, c'est la médaille des engagés volontaires. Parce que je suis reparti comme volontaire en Algérie, comme deuxième classe, alors que j'étais démobilisé depuis 4 ans.
Mesdames, messieurs, approchez-vous.
Ça, c'est la croix du combattant. Vous voyez, par rapport à celle-ci, ça, c'est la croix du combattant volontaire. Ça, c'est la croix du combattant normal. Puis ça, c'est le titre de reconnaissance de la nation. Et enfin... la commémorative des opérations au Maroc et en Algérie. Voilà.
Vous appelez comment ?
Margolis, M-A-R-G-O-L-I-S, Paul.
Chers camarades, chers amis, avant toute chose, je voudrais vous dire que lors de notre dernière Assemblée Générale, nous avons décidé de souligner le sigle ADIMAD, qui ne veut pas dire grand-chose pour le public, par... Mémoire de la résistance Algérie-Française, le MRAF, ce qui fera que le MRAP aura un concurrent sérieux, je pense. Donc nous sommes de la DIMAD et du MRAF. Nous voici donc réunis devant ces 124 plaques, au pied de Notre-Dame d'Afrique, face à notre Algérie perdue, et qui brûle toujours en nous d'un feu inextinguible. Ce mausolée, nous l'avons dédié à la mémoire et à l'honneur de nos 124 camarades de combat, si tragiquement disparus lors de notre lutte désespérée pour la sauvegarde de l'unité de la nation. Nous pensons à leurs familles. C'est pour cela que nous avons décidé que les noms de nos camarades seraient honorés publiquement dans des lieux d'hommage et de souvenirs. Ici même, Théoul, inauguré en 2002, tous les 13 mai. Perpignan, avec sa magnifique stèle inaugurée en 2003, tous les 7 juin. Marignane, sœur jumelle de Perpignan. Très bientôt, une nouvelle stèle sera inaugurée en Provence. Vos dons généreux ont permis de la réaliser. Grand merci à vous tous. Avant de rendre hommage aux résistants patriotes de l'Algérie française, je tiens à vous mettre en garde contre les manœuvres bassement électorales qui tenteraient d'acheter vos bulletins de vote. C'est le gaulliste Estrosi et sa rampale qui inaugure une statue du salopard couvert de notre sang. Nous appelons solennellement à boycotter cette mascarade.
Aux morts.
Mort pour la France,
mort pour l'Algérie française.
Nous allons chanter les Africains.
Nous étions au fond de l'Afrique, gardiens jaloux de nos couleurs, de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique,
Retentissez ce cri vainqueur. En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui arrivions de loin. Nous venions des colonies pour sauver la patrie. Nous avons laissé là-bas nos parcours. Et nous avons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, oui, à ses pieds. C'est vous les Africains.
Là, il y a le rassemblement donc, qui vient de se terminer. Tout le monde repart sur le petit chemin. Vous vous appelez comment ?
Monique Gageant. Mon frère est allé dans les géoles gaullistes pendant suffisamment d'années pour que je me sente concernée aussi. Et je crois que aussi longtemps qu'on restera, qu'on sera vivant, jusqu'au dernier d'entre nous, on perpétuera ce souvenir. Je crois que c'est important. Et moi, j'ai 65 ans, mais je me dis, jusqu'à mon dernier souffle, je continuerai à défendre ce qu'était la France en Algérie. Je suis née en Algérie en 48 et je suis rentrée en 62, trois mois après l'indépendance. Et je vais vous dire que mon nationalisme, il date de cette époque-là surtout. Bien sûr, comme tous, on était partisans de l'Algérie française, mais je suis devenue très nationaliste quand, en juillet 62 à Constantine, j'ai vu pisser sur le drapeau français. Et je vous assure que quand on voit notre drapeau déshonoré, c'est là qu'on se rend compte de ce que ça veut dire un drapeau et de toute la signification pour laquelle tant de sang ont été versés. Et là, ma foi, le FLN pissait sur notre drapeau. Et même si j'avais que 14 ans, j'ai pu voir tout ce qui se passait. Et c'est surtout les youyou des femmes, les drapeaux algériens. Alors vous comprenez que quand on les revoit ensuite sur la place de la Bastille, ces mêmes drapeaux algériens et ces mêmes Algériens qui n'ont pas hésité à pisser sur notre drapeau, à nous, on a un petit peu mal au cœur quelque part. Et ça, il y a des pardons qu'on peut pas faire. C'est comme ça.
Vous pensez que l'Algérie, elle aurait pu rester française ?
Absolument. L'Algérie, c'était pas une colonie, c'était des départements français. Et il y avait des départements français, c'était la France à part entière, de Dunkerque à Tamam-Rasset. Voilà.
Merci à toutes et à tous. Non, rien de rien, les anciens de l'Ouest ne regrettent rien. Deuxième volet de cette série de reportages de Charlotte Perry. Merci à Hervé Evano de l'INA. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique Programme émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez également réécouter cette émission sur le site là-bas.org, la-bas.org. Et puis faites un tour sur la page Facebook Là-bas si j'y suis, où vos commentaires sont toujours bienvenus. À la technique aujourd'hui, Élodie Royer et Stéphane Poitvin, Lucie Acoun et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission assistée de Pierre-Yves Bulto en personne, et Marion Dupas attend dès à présent vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Attention, mardi dernier, le jackpot Euromillions n'a pas été gagné. Ce vendredi, il atteindra près de 129 millions d'euros. À partager au rang 1 et plafonné à 190 millions d'euros, voire règlement.
Euromillions, et si votre vie devenait infiniment plus riche ? Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Un été avec Montaigne, un livre d'Antoine Compagnon.
Montaigne se méfiait de la nouveauté. Il doutait qu'elle pût améliorer l'état du monde.
En 40 chapitres, Antoine Compagnon nous fait redécouvrir un Montaigne drôle et limpide autour de quelques grands thèmes. L'engagement, l'amitié, la sexualité et même le surpoids.
Le style de Montaigne, c'est cela. Une cape jetée sur l'épaule, un menton en écharpe, un bas qui tombe.
Un été avec Montaigne d'Antoine Compagnon, une coédition France Inter.
France Inter, partenaire de l'exposition Dynamo jusqu'au 22 juillet au Grand Palais à Paris. Plongé dans un siècle de lumière et de mouvement dans l'art à travers les œuvres de quelques 150 artistes contemporains. Calder, Vasarely, Kapoor, Veillant, Morlaix, Leparc et tant d'autres. Dynamo, une exposition inédite et originale pour découvrir, s'étonner, expérimenter, s'étourdir. Retrouvez l'exposition Dynamo dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Livre Inter 2013, Sombre dimanche d'Alice Zeniter.
C'est une saga familiale qui s'étend sur 3 générations.
La famille Mandy vit dans une petite maison cernée par les rails de la gare de Budapest.
Je suis tombée amoureuse de la ville et une des choses que j'aime dans l'écriture, c'est mêler la grande histoire avec les petites histoires de personnages tout petits.
Un livre baigné de mélancolie et d'humour, Sombre dimanche d'Alice Zeniter, Livre Inter 2013.
On se retrouve demain à 15h pour La Basse si j'y suis. Il est 16h sur France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet.
C'était dans l'air, c'est fait. Bruxelles lance donc aujourd'hui une procédure à l'OMC contre la Chine. Ça concerne les taxes imposées par Pékin sur les importations de tubes en acier inoxydable. La direction et l'aile gauche du Parti socialiste sont parvenues à un accord aujourd'hui sur la vision de l'Europe. Le texte sera défendu ce week-end lors d'une convention du PS. Au final donc, la résolution pour réorienter l'Union européenne est un peu plus musclée que prévu. Elle prévoit de réviser le pacte de stabilité pour donner la priorité au soutien à la croissance dans chaque pays. Elle demande notamment un calendrier réaliste pour réduire les déficits publics, une meilleure parité aussi de l'euro surévalué par rapport aux monnaies américaines, japonaises et chinoises. Les migrations dans les pays les plus touchés par la crise ont fortement augmenté en Europe depuis 2009, plus 45% jusqu'en 2011 selon un rapport de l'OCDE aujourd'hui. Mais l'impact sur les finances publiques est jugé faible d'après l'Organisation pour la coopération et le développement économique. A priori, ce sont les Grecs et les Espagnols qui émigrent le plus vers d'autres pays de l'Union. Les chiffres ont doublé pour ces deux pays depuis 2007. Un Français sur deux préfère travailler plus longtemps que cotiser davantage pour sauver le système des retraites. C'est ce que dit aujourd'hui un sondage CSA. L'Institut CO Rexecode semble du même avis. Dans l'étude publiée aujourd'hui, il affirme que seul un recul de l'âge moyen de départ effectif à la retraite aura un impact positif sur l'économie française. Une hausse du taux de cotisation freinerait au contraire la croissance et pénaliserait les ménages en abaissant leurs revenus disponibles. Le rapport Moreau, lui, sur la réforme des retraites doit être rendu demain à Matignon. La Cour d'appel de Paris a confirmé aujourd'hui la relaxe d'Éric Zemmour pour ses propos tenus en 2008 envers Patrick Lozès. Le fondateur du CRAN, le conseil représentatif des associations noires de France, avait déposé plainte en 2008 contre le chroniqueur pour cette phrase prononcée. Patrick Lozès a déclaré « Obama est notre président », ce qui prouve que la solidarité raciale est supérieure à ses yeux enamourés à la solidarité nationale. Deux nouveaux supporters ultra du PSG ont été placés en garde à vue aujourd'hui. Ils sont soupçonnés d'avoir participé aux violences du Trocadéro lors du sacre du champion de France de football le 13 mai dernier. Depuis le début de l'enquête, 20 personnes au total ont été interpellées. Avec ces deux-là, ça fait donc 22 maintenant. 310 mètres de haut, c'est la plus haute tour, en tout cas le plus haut immeuble résidentiel et hôtel du monde. Il a été inauguré cette semaine à Dubaï. La construction de cette tour en forme de spirale a coûté la bagatelle de 272 millions de dollars. Elle compte 75 étages, 495 appartements et d'après son promoteur, 80% d'entre eux ont déjà été vendus. Il faut savoir que le plus petit, un 2 pièces, coûtait environ 544 000 dollars. Enfin, à propos de logement, mais à Paris cette fois, Nathalie Kosciusko-Morizet affirme aujourd'hui qu'elle préfère les gardiens aux Digicode. Selon la candidate UMP à la mairie de Paris, les logements financés par la capitale devraient être tous sécurisés par des concierges. Une mesure déjà en vigueur, lui répond aujourd'hui Jean-Yves Manot, l'actuel adjoint au maire de Paris chargé du logement. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Demain, France Inter, en direct et en public des Nuits de Fourvière, à Lyon. Trois rendez-vous à suivre.
À 11h, André Manoukian et tous les chroniqueurs dont Va tous y passer recevront Raphaël.
À 16h, on parle musique avec Sylvie Chapelle et Bertrand Belin.
Et à partir de 22h, carte blanche à Raphaël avec notamment sur scène Christophe et Herman Dion. Une soirée de concert présentée par Sylvie Chapelle.
Demain, France Inter, en direct et en public des Nuits de Fourvière à Lyon.
Toutes les infos, les bonus sur franceinter.fr.
France Inter.
La voix est libre.
Direction Lille maintenant, où l'on retrouve Frédéric Lodéon pour son carrefour de Lodéon.
Carrefour de Lodéon. We'll be right back.
Bonjour à tous et merci d'être nombreux devant nous, cher public lillois, qu'on va entendre tout de suite. Merci d'être nombreux aussi à l'écoute de votre poste pour ce Lille Piano Festival auquel nous sommes fidèles. Nous sommes au nouveau siècle, à l'espace Valladolid, avec, à tout seigneur, tout honneur, Jean-Claude Casadesus, qui est arrivé très vite parce qu'il y a des circonstances que tout le monde connaît. Jean-Claude Casadesus, bien sûr, chef d'orchestre, directeur musical de l'Orchestre National de Lille et directeur artistique du Lille Piano Festival. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour cher Frédéric.
Alors ce qui s'est passé, tout le monde le sait, le grand Pierre Mauroy a disparu, il y a de grandes cérémonies en ce moment, vous en revenez, et une émotion palpable un peu partout. Moi j'ai vu à la télévision sur France 3 ce matin, et bon, qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous avez vu des politiques, mais aussi des gens tout simples qui sont émus, qui pleurent parfois.
Écoutez, il y avait toute la ville de Lille réunie, tous ses amis venus de partout, parce que c'est quelqu'un qui était un homme au plus haut sens du terme respectable et aimable. C'était mon ami, j'étais le sien, nous avons 37 ans de parcours ensemble. Il m'a aidé à faire l'orchestre. Nous avons un long chemin au cours d'une épopée qu'il a lui-même, au fond, présenté cette épopée comme un grand culturel, ce qu'on ne dit pas suffisamment. Parce qu'au fond, outre la musique, outre les musées, il a amené aussi ici Rem Koolhaas, l'architecte, Port Zampar, Nouvelle. Mais aussi, il a tracé une route au moment, en pleine période de crise, en 1975, et c'est souvent en période de crise qu'on coupe les crédits de la culture, et bien au contraire, il a affirmé sa volonté de donner une priorité au Conseil régional, à la culture, l'éducation, la formation. Et donc nous avons pu bâtir ce qui est devenu un grand dessin musical et puis qui a conduit aussi à un grand nombre de structures culturelles comme le Louvre, Lens, et puis Lille 3000, après Lille, capitale européenne de la culture, que Martin Aubry a porté aussi sur les fonds baptismaux, et le président de la région avec toutes ses, je dirais, le président Percheron avec toutes ses initiatives. Et la dernière, dont je lui suis fort reconnaissant, c'est ce magnifique auditorium que vous avez pu découvrir, oui. Et qui est une nouvelle salle de concert qui me permet d'accueillir tous ces artistes aujourd'hui.
Et il a été assez décisif pour cette question, quelquefois subsidiaire, du budget. Il a été encore assez important à la fin.
Je veux dire que le chemin des artistes et des politiques passe aussi par le nerf de la guerre, bien sûr. Nous ne pourrions rien sans des volontés artistiques, mais on ne pourrait rien sans des volontés politiques. Pierre Mauroy a été un des premiers à la manifester au plus haut niveau, et je lui en serai éternellement reconnaissant. C'est une tranche de vie que nous avons vécue ensemble, et il a participé de mon accomplissement artistique et humain.
Eh bien, pour accompagner cette belle pensée, voici un extrait d'un de vos disques, bien sûr, avec l'Orchestre National de Lille, Jean-Claude Casadesus, Le Chœur de Lettonie. C'est une pièce que j'aime beaucoup parce qu'elle est valable non seulement pour le peuple russe, mais pour tous les peuples en général. C'est tiré de la cantate Alexandre Nievski de Sergueï Prokofiev, Debout, peuple russe.